5 février. Au-delà de toute expérience. Comprendre le moi requiert énormément d'intelligence, de vigilance, de finesse d'observation. Une observation qui doit être incessante pour ne point faiblir. Moi, qui suis très motivé, je veux dissoudre le moi. Et si je le dis, c'est que je sais qu'il est possible de dissoudre l'ego. Je vous en prie, faites preuve de patience. Quand je dis « je veux dissoudre ceci à l'instant même et dans le processus auquel je me plie en vue de le dissoudre », intervient l'expérience du moi, ce qui a pour effet de renforcer le moi. Comment le moi peut-il cesser de faire des expériences ? On voit bien que la création n'est en aucune façon l'expérience du moi. La création a lieu lorsque le moi n'est pas, car elle n'est pas intellectuelle, ne procède pas de l'esprit, n'est pas une projection de l'ego. La création est au-delà de toute expérience telle que nous la connaissons. Est-il possible à l'esprit d'être tout à fait silencieux dans un état où il ne reconnaît pas et donc ne fait pas d'expérience, dans un état propice à la création et qui est le moment où l'esprit n'est pas là, où il est absent? Est-ce que je me fais bien comprendre? Le problème est bien là, n'est-ce pas? Tout mouvement de l'esprit, positif ou négatif, est une expérience qui, en réalité, ne fait que renforcer le moi. L'esprit peut-il ne pas reconnaître? Cela n'est possible que lorsqu'il y a silence absolu. Mais pas un silence qui soit une expérience du moi, ayant pour effet de le renforcer. février 6. Qu'est-ce que le moi? La soif de pouvoir, de reconnaissance sociale, d'autorité, d'ambition, et ainsi de suite, sont les différentes formes que prend le moi. Mais ce qui compte, c'est de comprendre le moi, et je suis certain que vous en êtes convaincu. Permettez-moi d'ajouter qu'il faut prendre ce sujet très au sérieux, car j'ai le sentiment que si vous et moi, en tant qu'individu et non en tant que groupe de personnes se reconnaissant dans certaines classes sociales, dans une certaine société, certaines lignes de partage climatique, pouvons comprendre cet état de choses et influer sur lui, alors, je le crois, une véritable révolution aura lieu. Dès que ces notions deviendront universelles et mieux organisées, le moi va immédiatement s'abriter derrière elles. Alors que si vous et moi, en tant qu'individus, savons aimer, savons mettre toutes ces notions en pratique de façon authentique dans la vie quotidienne, alors la révolution qui est si essentielle verra le jour. Vous savez ce que j'entends par le moi. J'entends par là l'idée, la mémoire, la conclusion, l'expérience, les diverses formes d'intentions, nommables et innommables, l'effort conscient d'être ou de ne pas être, les souvenirs stockés dans la mémoire de l'inconscient, les notions de race, de groupe, d'individu, de clan. Bref, le moi, c'est ce tout, cet ensemble, qu'il se projette dans le plan extérieur sous forme d'action ou dans le plan spirituel sous forme de vertu. Le moi, c'est l'effort pour atteindre à tout cela. La compétition, le désir d'être en font partie. C'est l'ensemble de ce processus qui constitue le moi, l'ego. Et nous savons vraiment, quand nous y sommes confrontés, que c'est quelque chose de mauvais. Car le moi divise, il enferme. Ses activités, si nobles soient-elles, restent séparées, isolées. Nous savons tout cela. Nous savons aussi combien sont extraordinaires ces moments où le moi est absent, où il n'y a nulle impression de contrainte, d'effort, ce qui est le cas lorsqu'il y a l'amour. février. Quand l'amour est, le moi n'est pas. La réalité, la vérité, ne peut être reconnue. Pour que vienne la vérité, il faut que la croyance, l'expérience, la vertu, la quête de la vertu, qui est tout autre chose que d'être vertueux, il faut que tout cela disparaisse. L'individu vertueux qui a conscience de rechercher la vertu ne peut jamais rencontrer l'ultime réalité. Ce peut être un homme bien, ce qui est tout autre chose que d'être un homme de vérité, celui qui comprend. Pour l'homme de vérité, la vérité a déjà pris forme. L'homme vertueux, lui, se soucie de droiture. Et un homme soucieux de droiture ne peut jamais comprendre ce qu'est la vérité. Car ce qu'il prend pour de la vertu n'est qu'ambition égoïste et renforcement de l'ego. Lorsqu'il dit « je dois être dénué d'avidité », l'état de non-avidité dont il fait l'expérience renforce son ego. C'est pourquoi il est si important d'être pauvre, non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans celui de la croyance et du savoir. Celui qui est riche de biens matériels, celui qui est riche de croyances et de connaissances, ne connaîtront jamais ni l'un ni l'autre que les ténèbres et seront le centre de tous les malheurs et de tous les maux. Mais si vous et moi, en tant qu'individus, savons voir à l'œuvre tout ce mécanisme de l'ego, alors nous saurons ce qu'est l'amour. Je vous assure que c'est l'unique réforme qui soit vraiment capable de changer le monde. L'amour n'est pas le moi. Celui-ci ne peut pas reconnaître l'amour. Vous dites « j'aime » et pourtant, dans l'expression même de l'amour, dans l'expérience même qui en est faite, l'amour n'est pas. Mais lorsque vous connaissez l'amour, l'ego n'est pas. Quand l'amour est, le moi n'est pas. février. Comprendre ce qui est. À l'évidence, tout homme qui comprend la vie fait fi de toute croyance. Celui qui aime n'a pas de croyance. Il aime. C'est l'homme consumé par l'intellect qui a des croyances, car l'intellect est toujours en quête de sécurité, de protection. Il cherche toujours à éviter le danger, et il élabore donc des idées, des croyances, des idéaux derrière lesquels il peut s'abriter. Que se passerait-il si vous vouliez venir à bout de la violence directement, là, maintenant? Vous seriez un danger pour la société. Et parce que l'esprit anticipe le danger, il dit « Il va me falloir 10 ans pour réaliser cet idéal de non-violence, ce qui n'est qu'un mode d'action illusoire et faux. » Comprendre ce qui est importe plus que de fabriquer des idéaux et de s'y soumettre ensuite parce qu'ils sont faux. Alors que ce qui est la réalité vraie. Pour comprendre ce qui est, il faut des capacités immenses. Il faut un esprit vif et dénué de préjugés. C'est parce que nous ne voulons pas affronter et comprendre ce qui est que nous inventons toutes sortes d'échappatoires et les parons de beaux noms tels que l'idéal, la foi, Dieu. Assurément, ce n'est que lorsque je vois le faux pour ce qu'il est que mon esprit est capable de percevoir ce qui est vrai. Un esprit que des choses fausses ont rendu confus ne peut jamais trouver la vérité. Donc, je dois comprendre ce qu'il y a de faux dans mes relations, dans mes idées, dans tout ce qui m'entoure, car la perception de la vérité suppose que l'on comprenne ce qui est faux. Si l'on ne supprime pas les causes de l'ignorance, il ne peut pas y avoir d'éveil. Et rechercher l'éveil alors que l'esprit est dans l'obscurité est tout à fait vain et dénué de sens. Donc, je dois commencer par voir ce qu'il y a de faux dans ma relation aux idées, aux gens, aux choses. Lorsque l'esprit perçoit ce qui est faux, alors advient le vrai, et alors est l'extase, alors est le bonheur. Février. Ce en quoi nous croyons. La croyance est-elle source d'enthousiasme? L'enthousiasme peut-il se maintenir sans le soutien d'une croyance? Et d'ailleurs, est-il vraiment indispensable? Ou est-ce une autre espèce d'énergie qui est nécessaire, une autre forme de vitalité ou d'élan? Nous sommes généralement capables de nous enthousiasmer pour une chose ou une autre. Nous sommes passionnés de musique, fous de sport, ravis d'aller pique-niquer. Mais si cet enthousiasme n'est pas sans cesse alimenté d'une quelconque façon, il retombe, puis s'oriente à nouveau vers autre chose. Existe-t-il une force, une énergie qui n'ait besoin d'aucun soutien extérieur ? Qui ne dépendent pas d'une foi, d'une croyance? Cela soulève une autre question. Avons-nous besoin d'une quelconque croyance? Et si c'est le cas, pourquoi nous est-elle nécessaire? C'est l'un des problèmes implicites. Nous n'avons pas besoin d'un acte de foi pour croire en l'existence du soleil, des montagnes, des rivières, ni pour voir la réalité de nos querelles conjugales, ni pour savoir que la vie est une horrible souffrance, avec ses angoisses, ses conflits, son ambition incessante. C'est un fait. Mais nous revendiquons une croyance lorsque nous voulons fuir les faits pour plonger dans l'irréalité. Février. Ces croyances qui nous agitent. Donc, votre religion, votre foi en Dieu est une fuite devant l'évidence des faits et n'a donc rien d'une religion. Le riche qui amasse de l'argent par des procédés cruels et malhonnêtes, par l'exploitation sournoise, croit en Dieu, tout comme vous, qui êtes aussi sournois, cruel, soupçonneux, envieux. Peut-on rencontrer Dieu par la voie de la malhonnêteté, du mensonge, de toutes ces supercheries sournoises de l'esprit? Si vous collectionnez force livres saints ou objets divers symbolisant Dieu, cela prouve-t-il que vous soyez un homme religieux? La religion ne consiste donc pas à éluder les faits. Elle est une compréhension de la réalité de ce que vous êtes dans vos relations au quotidien. La religion, c'est le discours que vous tenez, la façon dont vous parlez, dont vous vous adressez à vos serviteurs, dont vous traitez votre épouse, vos enfants, vos voisins. Tant que vous ne comprenez pas la nature de vos relations avec votre voisin, avec la société, avec votre femme, avec vos enfants, il ne peut y avoir que confusion, et un esprit confus, quoi qu'il fasse, créera toujours plus de confusion, de problèmes et de conflits. L'esprit qui fuit l'évidence des faits, la relation telle qu'elle est, ne rencontrera jamais Dieu. Un esprit qui est agité par des croyances ne connaîtra jamais la vérité. Mais l'esprit qui comprend les relations qu'il entretient avec les biens, les personnes, les idées, l'esprit qui ne se bat plus contre les problèmes suscités par les relations et pour qui la solution n'est pas l'échappatoire mais la compréhension de l'amour, cet esprit-là est le seul qui soit apte à appréhender le réel. février 11. Au-delà des croyances. Nous nous rendons compte que la vie est laide, douloureuse, terrible. Nous avons besoin de théories, de spéculations ou de satisfactions, de doctrines d'une espèce ou d'une autre qui puissent expliquer tout cela. Nous nous laissons donc piéger par des explications, des mots, des théories. Et peu à peu, les croyances s'enracinent, se font de plus en plus profondes et inébranlables. Car derrière ces croyances, derrière ces dogmes, il y a la peur incessante de l'inconnu, que jamais nous ne regardons en face, mais que nous éludons. Plus fortes sont les croyances, plus forts sont les dogmes. Et lorsque nous examinons ces croyances, la foi chrétienne, hindoue ou bouddhiste, nous constatons qu'elles divisent les êtres. Chaque dogme, chaque croyance comprend une série de rituels, une série de contraintes qui, à la fois, relient les hommes et les séparent. Alors, nous cherchons activement à découvrir la vérité, à savoir quelle est la signification de cette détresse, de ces luttes, de cette souffrance. Et nous tombons très vite dans le piège des croyances, des rituels, des théories. Les croyances sont corruptrices, car derrière la croyance et le moralisme se dissimulent l'esprit, le moi, l'ego qui gagne en ampleur, en puissance et en force. Nous considérons que la religion, c'est croire en Dieu, croire en quelque chose. Nous considérons qu'avoir une croyance, c'est être religieux. Vous comprenez? Si vous ne croyez en rien, vous serez considéré comme un athée. Vous serez condamné par la société. Une société donnée condamnera ceux qui croient en Dieu. Une autre, ceux qui n'y croient pas. Mais elles sont en fait identiques. La religion devient donc affaire de croyance. Et les croyances agissent et influencent l'esprit en conséquence. L'esprit ne peut donc jamais être libre. Pourtant, c'est seulement dans la liberté que vous pouvez découvrir ce qui est vrai, découvrir ce qu'est Dieu, et non par l'intermédiaire d'une quelconque croyance. Car votre croyance ne fait elle-même que projeter votre propre vision de ce que devrait être Dieu, de ce que devrait être la vérité.